Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent destination CRFPA. Alors, on ne dirait pas forcément quand on regarde la composition de l'équipe de vos trois serviteurs, mais en réalité le monde du droit est un monde beaucoup plus féminin que masculin. Et je voulais revenir aujourd'hui sur la place des femmes dans le monde des professions juridiques, comment c'est en train d'évoluer et quels sont encore les challenges qui sont à accomplir parce qu'il y en a encore beaucoup, vous allez le voir. L'exercice n'est pas facile. Je sais que parler de la place d'un certain sexe dans une société ou une profession, c'est parfois à même de soulever les passions, hein. Mais bon, vous savez que sur ce podcast, nous, on essaye quand même de parler de sujets qui sont parfois peu abordés, mais qui vous concernent. Et on essaie de le faire avec objectivité et bienveillance, donc je pense que ça a totalement sa place dans ce podcast. Alors, pour commencer avec un peu d'histoire, en France, la première femme avocate, Jeanne Chauvin est autorisée à prêter serment en décembre 1900, alors que le métier d'avocat existe quand même depuis l'Antiquité, hein. Donc c'est le début, vraiment le début du XXe siècle, qui a marqué l'avènement, l'ouverture des professions juridiques aux femmes, en tout cas sur le plan formel. Pour les autres professions juridiques, c'est arrivé encore plus tard, 1946 pour la magistrature, et après c'est la fin des années 40, 48-49, pour les professions de notaire et d'huissier de justice. Aujourd'hui, on est heureux de constater que cette ouverture de la profession aux femmes a conduit à ce que finalement, eh bien, nos professions juridiques soient majoritairement féminisées, avec plus de 60% des étudiants en droit qui sont des femmes. Et même à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, on a plus de 80%, environ 80% des étudiants qui sont des étudiantes. Au sein de la profession d'avocat, encore un petit chiffre statistique, c'est 55% à peu près de femmes et 45% d'hommes. Donc on a une vraie féminisation des professions juridiques, mais malgré ça, beaucoup parlent de l'existence d'un plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux plus hauts postes à responsabilité dans le monde du droit. Notamment, il y a eu pas mal de rapports qui ont été publiés, que ce soit par le CNB, par le Défenseur des droits, hein, le 2 mai 2018, un rapport du Défenseur des droits sur les discriminations dans le milieu juridique. Donc, c'était pas que les discriminations envers les femmes, mais ça en tenait compte notamment. Et donc, je vais un peu essayer de vous parler un peu de ce plafond de verre qui existe aujourd'hui et des solutions qu'on peut y apporter et des mouvements qui se sont mis en place aujourd'hui pour essayer justement de le faire péter, ce plafond de verre, tout simplement. Alors, en termes de postes, tout d'abord, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si la majorité des troupes dans les grands cabinets d'avocats sont des femmes, énormément de collaboratrices, eh bien il y en a beaucoup moins qui sont associées ou qui occupent des postes à responsabilité. C'est pareil également en entreprise, 60% des directeurs juridiques sont des hommes, alors que quand on regarde les effectifs des directions juridiques, on est à 65-70% de femmes. Donc c'est totalement inégalitaire. Dans la magistrature, c'est pas beaucoup mieux, hein. En 2010, alors j'ai des chiffres un peu anciens, mais les postes de président du tribunal étaient occupés à 72% par des hommes. Et alors le trophée revient au procureur qui était à 83% des hommes. Donc on a une vraie difficulté déjà d'accès aux postes à responsabilité pour les femmes dans le monde des professions juridiques. Ensuite, en termes de rémunération, car c'est vrai que c'est là le nerf de la guerre, hein, le tableau n'est toujours pas équilibré, puisque toujours selon notre rapport du Défenseur des droits de 2018, qui est un peu le plus récent que j'ai pu trouver, mais il y a eu quelques autres études récentes, mais c'était quand même le plus documenté, on a 61% des avocates de moins de 39 ans qui gagnaient moins de 3 000 euros net par mois en 2017. Donc 61% des avocates de moins de 39 ans gagnaient moins de 3 000 euros net par mois en 2017. Contre seulement 44% des avocats hommes. Donc ça veut dire que 56% des avocats hommes gagnaient plus de 3 000 euros par mois, contre seulement 39% des femmes. Ça fait d'ailleurs écho à un rapport de l'INSEE de 2007, donc ça montre d'ailleurs qu'en 10 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, qui indiquait que chez les professions libérales, un homme d'expérience égale gagnait environ 117% du salaire d'une femme dans les professions du droit. Alors, comment on explique ces différences de rémunération? Il y a une réalité déjà, qui pour le coup n'est pas liée vraiment à des discriminations, c'est les différences de matière, de sujet juridique qui intéressent les hommes et les femmes. Les hommes sont majoritairement représentés dans des professions d'avocat d'affaires, de droit international, qui sont souvent mieux rémunérées. À l'inverse, les femmes sont plus souvent dans le domaine du droit de la famille, dans le domaine du droit du travail, de la protection sociale, dans le droit pénal, qui sont souvent moins bien rémunérées que les avocats d'affaires et les avocats de droit international. Mais ce n'est pas la seule cause qui explique cette différence de rémunération. Et on constate dans les cabinets d'avocats et dans les directions juridiques parfois des vraies discriminations à expérience égale dans le même domaine sur le salaire des avocats. Outre ces problématiques de rémunération, on a aussi un risque de discrimination lié à l'état de grossesse, des avancées de carrière qui sont ralenties pour les femmes qui ont des enfants et qui les conduisent, c'est malheureux, mais qui malheureusement conduisent beaucoup d'avocates soit à ne pas prendre de congé maternité du tout, soit à réduire la durée de leur congé maternité, ou même pire, à avoir peur d'annoncer à leur cabinet ou à leur entreprise qu'elles sont enceintes, par peur justement qu'on ralentisse leur carrière, ou même tout simplement qu'en fait on leur dise qu'on se sépare d'elles au moment où elles partent en congé maternité ou au moment où elles reviennent. Au-delà de cette discrimination-là, qu'on appelle les discriminations liées à l'état de grossesse et de maternité, beaucoup de femmes juristes disent aussi avoir du mal à s'affirmer face à leur homologue masculin, alors pourtant que, comme je le disais, hein, elles sont souvent majoritaires. Et je ne parle même pas des problématiques de harcèlement dont peuvent faire l'objet les femmes, de chantage sexuel, qui sont des pratiques immondes, mais qui malheureusement existent encore. Alors quelles sont les perspectives des femmes dans le monde du droit et comment lutter contre ces inégalités? Tout d'abord, l'élection de Christiane Ferhal-Schoul en tant que présidente du CNB a remis la question de la place de la femme dans le monde des avocats sur la table et les initiatives se sont multipliées ces dernières années. Déjà, vous avez des interlocuteurs qui sont à votre disposition si vous êtes une femme et que vous pensez faire l'objet d'une discrimination. Certains ordres des avocats, notamment l'Ordre de Paris, ont instauré des référents permettant aux victimes de discrimination, de harcèlement, de dénoncer ces agissements. Ça peut être d'ailleurs des victimes hommes ou femmes, hein. On a aussi les cabinets d'avocats qui essayent par eux-mêmes, pour une grande partie quand même, ça se développe de plus en plus, de rééquilibrer leurs effectifs, de rééquilibrer leur politique salariale envers les hommes et les femmes, parce que c'est devenu un symbole de modernité et ça contribue à la bonne image des firmes. Et à ce sujet, d'ailleurs, le barreau de Paris a créé ce qu'on appelle le trophée des assises de l'égalité, qui récompense les cabinets qui s'engagent le plus sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, les piliers sont en train de bouger, mais c'est très lent. Et pour conclure, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote qui m'a marqué lors d'un de mes stages en cabinet. L'avocat pour qui je travaillais, qui était tout à fait favorable à l'égalité dans la profession, m'a raconté qu'il ne savait jamais vraiment comment s'adresser à une consœur. Est-ce qu'il doit écrire cher maître avec un E? Est-ce qu'on doit dire qu'elle est avocate ou avocat? Est-ce qu'on doit l'appeler chère consœur ou cher confrère? Alors moi, ça m'avait choqué qu'on puisse dire cher confrère à une femme, mais en fait, pas du tout. C'est une pratique qui est très répandue dans la profession. Et du coup, on était allé consulter ce qu'on appelle le livre des adresses et des formules de politesse de la profession, qui est édité par l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Et qu'est-ce que nous indique ce livre? Il nous indique qu'effectivement, l'expression cher confrère, sans E, est la plus utilisée quand les avocats s'adressent à une consœur, y compris les consœurs entre elles, qui, selon ce livret, voit dans la féminisation du titre un rabaissement. Et le livret, d'ailleurs, de rajouter entre parenthèses, que cela contribue à ce que les femmes, paradoxalement, contribuent à leur propre empêchement d'évolution. C'est ce que dit le livret. Mais le livret préconise toutefois l'expression chère consœur, qui paraît la seule formule appropriée pour s'adresser à une femme avocate et qui s'utilise de plus en plus. Alors, mes chères futures consœurs, je ne peux que vous exhorter à continuer à participer à l'expansion des femmes dans le milieu du droit. Vous êtes une vraie source d'inventivité, de réactivité, de précision, d'endurance, de talent et de tant d'autres qualités que beaucoup d'hommes n'ont pas. Moi, j'ai eu l'occasion de voir vraiment que ce soit à la fac ou dans mes stages, des femmes juristes qui étaient incroyables et qui avaient une capacité de réflexion, mais que je me disais, mais waouh! Donc voilà, n'ayez pas peur de vous affirmer. Chaque petite pierre à l'édifice contribue au changement des mentalités. Les mentalités, elles avancent, mais elles avancent pas vite. Alors croyez en vous et la profession ressortira gagnante, je pense, d'avoir gagné dans ses rangs ces femmes brillantes que vous êtes. Voilà, donc bon, j'espère que les hommes qui nous ont écoutés ont pu quand même retrouver un peu un intérêt quand même dans cet épisode. Je pense qu'on a aussi notre pierre à apporter à cet édifice pour rétablir cette égalité, et je pense que d'ailleurs nous aussi, les hommes, on en ressortira gagnant. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode du jour vous aura permis de vous rendre un peu mieux compte de la place qu'a aujourd'hui la femme dans les professions juridiques, et peut-être de vous donner aussi l'envie de bah, d'essayer de faire un peu bouger les choses. C'est, je pense, c'est la jeune génération qui doit prendre les choses en main. Donc, vu que je sais qu'on a quand même un auditoire qui est assez jeune. Donc voilà, je vous invite tous à votre échelle à essayer de faire un peu bouger les choses et voilà, pour que entre confrères et consoeurs, on puisse coévoluer dans un milieu où chacun est sur un pied d'égalité. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.